Bienvenue sur le podcast Art de Vivre. Je suis Daphné Moreau, entrepreneuse passionnée de bien-être et de développement personnel. Depuis plus de 15 ans, je partage mes conseils, mes découvertes et mes challenges auprès de ma communauté, sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Art de Vivre, c'est une approche globale du bien-être, à la fois physique et mentale. Chaque semaine, je vous propose une bonne dose d'inspiration, des astuces pratiques et des stratégies simples et concrètes que j'utilise moi-même au quotidien pour construire une vie intentionnelle, riche, épanouissante, créative et productive. Si vous aimez apprendre et que vous cherchez à cultiver le bonheur dans votre quotidien tout en développant votre propre potentiel, vous êtes au bon endroit. C'est parti pour l'épisode du jour! Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente semaine. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur la thématique de l'entrepreneuriat qui m'a été inspirée par le fait que je m'apprête à fêter mes 10 ans d'entrepreneuriat. J'avais pas réalisé que cette date anniversaire arrivait si vite, mais le 30 avril 2014, il y a 10 ans donc, j'ai quitté mon job dans les relations publiques chez Hermès et j'ai décidé de me lancer à mon compte. Et depuis, je n'ai plus jamais regardé en arrière. Honnêtement, j'avais jamais vraiment imaginé devenir entrepreneur quand j'étais plus jeune. C'est pas un modèle avec lequel j'ai grandi. J'ai pas d'entrepreneur dans ma famille, par exemple. Mais c'est une opportunité qui s'est présentée à moi à l'aube de mes 25 ans et que j'ai saisie sans jamais regretter. Comme je vous le disais, à l'époque, je travaillais chez Hermès, où j'ai commencé ma carrière professionnelle à l'issue de mon master en marketing et management spécialisé dans le luxe. J'ai occupé différents postes chez Hermès sur plusieurs années, mais le dernier en date, c'était dans l'équipe des relations publiques. Donc j'organisais notamment le saut Hermès au Grand Palais, qui est un événement équestre, un événement de jumping, et aussi différents événements en boutique en France. À cette époque, j'avais déjà vraiment commencé à réfléchir à me lancer à mon compte pour développer mon activité parallèle, qui était la création de contenu sur mon blog et sur les réseaux sociaux. Il y a 10 ans, en 2014, c'était vraiment encore les débuts de la création de contenu, de l'influence, et assez peu de gens en avaient fait leur carrière à temps plein. Mais je sais pas, je sentais que mon intuition m'amenait vers ça. Donc fin avril 2014, j'ai décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et je me rappelle que je m'étais donné un an pour créer mon business et pour voir ce qu'il adviendrait. Je m'étais dit que si au bout d'un an, ce n'était pas viable financièrement ou bien si je me rendais compte que finalement, c'était pas une voie dans laquelle j'avais envie de poursuivre, je me remettrais sur le marché du travail, forte de cette expérience d'avoir lancé mon business, parce que pour le coup, j'avais aucun doute sur le fait que j'allais apprendre plein de choses et que ce serait une expérience entrepreneuriale qui aurait de la valeur aux yeux de certaines entreprises dans le cadre d'un éventuel futur recrutement. 10 ans plus tard, je suis toujours là, toujours à mon compte, donc comme vous vous en doutez, l'aventure entrepreneuriale a été plutôt positive pour moi. Évidemment, en 10 ans, mon business a pas mal évolué, j'ai travaillé seule, puis je me suis entourée de plusieurs personnes, j'ai aussi travaillé avec Vincent, mon mari, pendant plusieurs années. Aujourd'hui, je suis seule à temps plein sur mon business, mais je travaille avec plusieurs personnes indépendantes que je considère vraiment comme mon équipe à part entière et qui m'accompagnent sur différentes tâches, la gestion de mes projets, de mes collaborations, des réseaux sociaux, du podcast, ce genre de choses. J'ai beaucoup appris en 10 ans d'entrepreneuriat. J'ai appris des choses sur moi-même, sur qui je suis, qui j'ai envie d'être, des choses liées au business, bien sûr, mais aussi beaucoup de leçons de vie, on va dire, qui sont applicables à plein de domaines au-delà de l'entrepreneuriat pur et dur. Et donc, dans cet épisode, j'avais envie de partager avec vous les 10 leçons les plus impactantes que j'ai tirées de cette décennie d'entrepreneuriat. Si vous êtes entrepreneur, si vous songez à lancer un business ou tout simplement si vous êtes curieux, curieuse et que l'entrepreneuriat vous intéresse, cet épisode devrait vous plaire et j'espère que mes différents retours d'expérience et conseils pourront vous être utiles. Comme j'avais pas mal de choses à vous dire, j'ai décidé de scinder cet épisode en deux. Donc vous écoutez actuellement la partie 1 de cet épisode et la semaine prochaine sortira un nouvel épisode avec la partie 2. La première leçon que j'ai tirée de mes 10 ans d'entrepreneuriat, c'est d'apprendre à dire non. Alors, c'est pas anodin que ce soit la première leçon que je partage avec vous parce que je pense sincèrement que c'est de loin la plus importante que j'ai pu retirer de cette décennie à mon compte. Et c'est aussi une leçon que j'applique à toutes les autres sphères de ma vie. Qu'on soit entrepreneur ou non, si on n'apprend pas à dire non dans la vie, on sera sans cesse tiraillé dans toutes les directions et on ne trouvera jamais le temps de faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Quand on dit oui alors qu'on veut dire non, on regrette, on ressent du ressentiment, de l'appréhension, on ne prend pas plaisir à faire la chose, la tâche, le projet qu'on a accepté de faire alors qu'en réalité on n'en avait vraiment pas envie. On peut même ressentir de la colère ou de la culpabilité d'avoir gaspillé son temps. Bref, c'est tellement d'énergie et de temps perdu au lieu de simplement savoir s'écouter et dire non dès le départ. Il y a encore pas si longtemps, c'était vraiment une torture pour moi de dire non. Je faisais systématiquement passer les demandes ou les besoins des autres avant les miens et j'avais beaucoup de mal à poser des limites ou à décliner certains projets, certaines invitations, certaines opportunités, par peur de décevoir, par peur qu'on ne m'aime plus, par peur qu'on pense que je suis trop comme ci, pas assez comme ça, par peur aussi qu'en déclinant une opportunité, je passe à côté de la chance de ma vie. Et c'est vraiment grâce à mon cheminement personnel des dernières années, que ce soit via le développement personnel, la connaissance de soi, la thérapie, le coaching, que j'ai appris à la fois à construire une vision claire pour ma vie et une sécurité intérieure qui me permettent aujourd'hui de dire non beaucoup plus facilement. Bien sûr, c'est parfois encore très inconfortable quand même, mais j'ai compris que dire non à certaines personnes, certaines opportunités, certaines propositions, c'est ce qui allait me permettre de dire oui à d'autres choses qui sont plus alignées avec mes envies et ou mes objectifs personnels. Avoir cette vision claire, savoir précisément où je veux aller et quelles sont mes priorités du moment, ça me permet de dire non beaucoup plus facilement. Je sais pourquoi je dis non, et ça, vraiment, ça change tout. Quand on travaille à son compte, ça peut être particulièrement difficile de dire non, de décliner des opportunités, rémunérées ou non, tout particulièrement au début de la vie de son entreprise. Personnellement, j'ai vraiment appris à écouter mon intuition quand je me demande si je dois accepter ou non certaines opportunités, certains projets, mais c'est l'expérience qui m'a aidée à en arriver. Maintenant, quand ce n'est pas un grand oui, je dis plutôt non, parce que je sais que chaque projet sur lequel je choisis de travailler va me demander des ressources de temps, d'énergie, financière, que je n'aurai pas la possibilité d'allouer à une autre opportunité existante ou qui peut-être ne s'est pas encore présentée. On le sait tous et toutes, c'est tellement facile de remplir son emploi du temps, de dire oui à tout et de se retrouver embarqué dans des projets qui, au final, vont nous éloigner de l'objectif qu'on s'est fixé. Si on s'est fixé un objectif et si on a cette vision claire qui est tellement précieuse. Donc moi, j'essaye vraiment d'être sélective et de ne pas faire mes choix avec une mentalité de manque, mais au contraire avec une mentalité d'abondance. Si vous n'êtes pas familier ou familière avec ce concept de mentalité de manque d'abondance, j'ai enregistré un épisode de podcast dédié à cette thématique qui est vraiment très, très, très intéressante. Je vous mettrai le lien dans les notes de cet épisode si vous avez envie de l'écouter ou de le réécouter. Mais pour vous donner un exemple parlant, quand je dois faire un choix, au lieu de me dire « il faut absolument que j'accepte ce projet parce qu'on ne me reproposera peut-être pas d'autres projets », ça c'est plutôt la mentalité du manque, je vais au contraire me dire « il y aura toujours d'autres projets, est-ce que celui-ci est assez aligné avec ma vision et mes objectifs pour lui dédier mon temps et mon attention ?» Ça, ce serait la mentalité de l'abondance. La deuxième leçon que j'ai apprise en 10 ans d'entrepreneuriat, c'est l'importance d'avoir une vie en dehors de son business, de mettre des limites en place et de ne pas forcément chercher à reproduire le modèle du salariat. Je pense que quand on est entrepreneur, une des questions les plus importantes à se poser, et qu'on ne se pose pas forcément, c'est quelle est la place qu'on a envie de donner à son business dans sa vie. Parce que c'est très facile de laisser son business prendre toute la place dans sa vie et même de faire de son business son identité, d'attacher sa valeur en tant qu'être humain à son business. Pour savoir si c'est votre cas, moi c'était le mien auparavant, vous pouvez vous demander « qui suis-je en dehors de mon business ? Qui suis-je quand je ne suis pas en train de travailler, de produire quelque chose ?» C'est aussi une question très intéressante à se poser quand on est salarié. Qui est-ce qu'on est en dehors de son poste, en dehors de son travail ? C'est quelque chose sur lequel je travaille depuis des années, cette idée d'équilibre entre le pro et le perso. Et ma coach Christina m'a énormément aidée pour ça. Elle m'a vraiment aidée à redéfinir ma vision du travail, à décider quelle place je souhaitais que mon travail occupe dans ma vie au global et comment je voulais organiser mon quotidien et mon planning pour créer un équilibre entre mon pro et mon perso. Évidemment, l'équilibre, il n'est pas toujours parfait. C'est vraiment un effet de balance. Il y a dans la vie, il y a des saisons. Et dans nos business, il y a des saisons aussi. Il y a des moments où on va devoir travailler plus intensément et des moments où on aura un petit peu plus d'espace. Donc, quand je parle d'équilibre, ce n'est pas forcément un équilibre constant et permanent, parce que pour le coup, je pense que c'est assez utopique, mais plutôt s'assurer qu'il y a quand même, si on regarde au global, peut-être sur une année ou sur un semestre, un équilibre entre le pro et le perso, et que l'un ne vient pas dévorer l'autre, et très souvent, c'est le pro qui vient dévorer le perso. Dans mon cas, comme une partie de mon activité est justement très liée au partage de mon expérience, de mes coups de cœur, de ma vie, c'est encore plus difficile de définir une frontière entre mon business et moi-même en tant que personne hors justement de mon business. Pendant des années, j'ai essayé de reproduire le mode de fonctionnement, le mode de travail que j'avais connu en entreprise avant de me lancer à mon compte, à savoir des journées de travail plus ou moins de 9h à 18h, on va dire. Le problème, c'est qu'en plus de ça, je travaillais aussi très souvent le soir et les week-ends parce que, je cite, « j'aimais ce que je faisais ». Mon travail était vraiment devenu ma vie et je ne savais plus vraiment qui j'étais en dehors de mon activité professionnelle qui, comme je vous le disais, est en plus très liée à mon perso et à moi-même en tant qu'individu. Donc, l'amalgame est quand même assez facile à faire. Quand je profitais de la liberté que pouvait m'offrir le fait de travailler à mon compte, par exemple si je prenais un cours de sport en plein milieu de matinée un jour de semaine, ou si j'allais faire une course au milieu de l'après-midi, je le faisais toujours avec énormément de culpabilité. Profiter de cette liberté que m'offrait le fait d'être à mon compte me causait beaucoup de culpabilité. Ces dernières années, j'ai vraiment redéfini ma vision du travail. Avant, pour moi, le travail, le temps de travail, c'était uniquement quand j'étais derrière mon ordinateur ou sur mon téléphone à produire du contenu, à répondre à des emails, à brainstormer sur de futurs projets, à échanger avec mon équipe. Aujourd'hui, je vois le travail différemment. Je vous donne un exemple. Avant, quand je lisais des livres de développement personnel, je ne considérais pas ça comme du travail du tout. Je considérais ça comme du temps off. Aujourd'hui, je considère ces lectures comme du temps de travail parce que je sais que ce sont des ressources qui vont me permettre d'enrichir mes compétences en tant que coach, qui vont me donner de nouvelles idées de thématiques pour ce podcast, par exemple, ou tout simplement qui vont me faire évoluer en tant que personne, ce qui va avoir un impact positif sur mon business. J'ai aussi appris à mettre en place des limites horaires. Et actuellement, sauf exception, je ne travaille pas le week-end ni le soir après 18h30, 18h45. Dans le domaine dans lequel j'évolue, en tout cas pour une partie de mon business qui est très liée à la communication digitale, aux réseaux sociaux, il y a vraiment cette culture de la disponibilité permanente, de l'instantanéité, de la réponse immédiate, de la connexion non-stop. Et du coup, ça a vraiment été une démarche consciente pour moi ces dernières années de mettre en place des limites et de ne pas faire de compromis sur mon temps personnel. Bien sûr, il y a des semaines où c'est plus facile que d'autres. Il y a des semaines où je dois m'adapter. Une fois de plus, il y a des saisons de vie, des saisons de business qui font que l'équilibre n'est pas toujours parfait. Mais en tout cas, j'ai toujours en tête cet objectif clair de la place que je veux laisser à mon business dans ma vie. La troisième leçon que j'ai apprise en 10 ans d'entrepreneuriat, c'est que prendre soin de soi est une vraie stratégie business. C'est quelque chose que j'ai déjà mentionné dans un de mes précédents épisodes de podcast qui s'appelait « Mes 7 secrets pour construire la vie qu'on a vraiment envie de vivre ». Et honnêtement, c'est l'un des conseils les plus importants que je donnerai aux entrepreneurs. Si vous êtes l'une des ressources principales de votre entreprise, comme c'est mon cas, voire la seule ressource si vous êtes solopreneur, prendre soin de vous, c'est vraiment l'un des piliers du succès de votre business. Et ça, j'ai mis des années à le comprendre. Mais depuis que je l'ai compris, je suis beaucoup plus épanouie et mon business ne s'est jamais aussi bien porté. Avoir son propre business, c'est vraiment un surprenant mélange de joie et de stress, de fierté et de doute, d'autonomie et de responsabilité, d'échecs et de succès. Et c'est hyper important de prendre soin de soi, de sa santé physique et mentale pour naviguer à travers tout ça. Ce qui m'a vraiment amenée vers cette prise de conscience, ça a été quand j'ai fait un burn-out fin 2019. Ça faisait de longs mois que je couvais cet épuisement, mais sans réussir à m'arrêter parce que, justement, j'étais la ressource principale de mon business. Ce burn-out, ça a vraiment été un événement charnière de ma vie qui m'a vraiment forcée à réévaluer mon existence, à remettre les choses à plat et à définir comment j'avais envie d'évoluer et de continuer à vivre ma vie. Même si les choses sont en train d'évoluer, on est quand même dans une société où on a tendance à toujours faire sans jamais s'arrêter et se créer des bulles de détente, de temps libre dans son quotidien. Même si c'est très rapide, même si c'est très court, c'est hyper important. Et une fois de plus, pour moi, c'est vraiment une stratégie business quand on est entrepreneur. Je sais que quand je me sens bien, quand j'ai pris soin de ma santé mentale et physique, je suis plus productive, je suis plus créative et je suis plus à même d'apporter de la valeur aux personnes qui me suivent. Il y a 1000 manières de prendre soin de soi et c'est important de trouver ce qui marche vraiment pour nous. Au-delà de ce qu'on voit les autres faire, notamment sur les réseaux sociaux où on a accès à toutes les morning routines, evening routines de tout un tas de gens qui peuvent être super inspirantes. Moi, j'ai découvert plein de choses que j'ai intégrées à mes propres routines sur les réseaux sociaux. Mais je pense que c'est vraiment important de trouver ce qui nous fait du bien à nous. Ça peut évidemment être le sport, la méditation, l'écriture, faire une activité manuelle, mais ça peut aussi être des choses comme passer du temps dans la nature, faire des puzzles, prendre un bain, faire sa petite routine skincare chaque soir, se faire masser, s'asseoir en silence sur son canapé. Il n'y a pas une seule manière de faire qui va convenir à tout le monde. Je parle aussi très souvent de l'importance de prendre des pauses dans sa journée de travail et ça, c'est quelque chose en quoi je crois beaucoup. Il y a beaucoup d'études qui soutiennent que le fait de régulièrement faire des pauses va justement permettre d'être plus efficace, plus alerte, plus productive et va donc booster le bien-être au travail. Ça peut paraître contre-productif parce qu'on a souvent l'impression que si on s'arrête même quelques minutes, on va perdre en efficacité, mais au final, c'est tout le contraire. La quatrième leçon que j'ai apprise en 10 ans d'entrepreneuriat, c'est l'importance d'avoir sa propre définition du succès. Qu'on soit entrepreneur ou non, je pense que c'est vraiment primordial de ne pas se laisser dicter notre définition du succès par la société, par les messages qu'on nous envoie, par l'idée du succès qu'ont les personnes qui nous entourent ou qu'on suit sur les réseaux sociaux. C'est hyper puissant, finalement, de se poser cette question. Qu'est-ce que le succès pour moi ? Est-ce que c'est avoir de l'argent ? Est-ce que c'est être connu, reconnu pour quelque chose ? Est-ce que c'est avoir du temps libre et ne travailler que tant d'heures par semaine ? Est-ce que c'est pouvoir reverser un pourcentage de mon salaire à une association ? Est-ce que c'est créer un produit, un service, une entreprise qui va devenir un business familial et qui va traverser les générations ? Finalement, il y a autant de visions du succès qu'il y a d'individus. Bien sûr, ça peut aussi être un mix de plusieurs choses, mais on a tous et toutes des envies, des aspirations différentes, et on a trop souvent tendance, je trouve, à mesurer le succès uniquement en termes financiers ou en termes de reconnaissance, de célébrité, alors que, évidemment, ce ne sont pas les seuls indicateurs de succès qui existent. Pour moi, par exemple, la ressource temps est extrêmement précieuse et j'accorde énormément d'importance et de valeur à mon temps libre. C'est vraiment un élément clé dans ma propre définition du succès. La cinquième leçon que j'ai apprise en 10 ans d'entrepreneuriat, c'est la nécessité de savoir s'entourer et d'accepter qu'on ne peut pas tout faire tout seul. Pendant des années, mon mantra, ça a été « on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ». Et même si c'était trop pour une seule et même personne, j'avais cette obsession de vouloir tout faire moi-même. Avec le temps, l'expérience, le cheminement personnel, parce que c'était aussi très lié à un besoin de contrôle que j'avais et sur lequel j'ai beaucoup travaillé, j'ai petit à petit commencé à rencontrer et à collaborer avec des personnes incroyables qui aujourd'hui font partie de mon équipe et en qui j'ai toute confiance et qui m'ont vraiment aidée à développer et faire grandir mon business. Savoir déléguer, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend. C'est vraiment une compétence à développer. Accepter que, bien sûr, personne ne fera jamais les choses exactement comme on les aurait faites nous-mêmes, mais que c'est OK. Et d'ailleurs, si on arrive à bien s'entourer, l'idée, c'est aussi de collaborer avec des gens qui font mieux certaines choses que nous, qui vont être plus qualifiés que nous, avoir plus d'expertise dans certains domaines, ce qui va nous permettre de nous concentrer sur ce qu'on sait faire ou sur ce qu'on a envie de développer. Il y a quelques années, j'avais lu cette phrase qui m'a vraiment marquée et à laquelle je repense tout le temps. C'était une interview de Amber Vansbox, qui est la fondatrice de Like to Know It, qui disait « Si une personne sait faire quelque chose à 80% aussi bien que vous, laissez-la faire ». J'avais fait un screenshot de cette phrase tellement elle m'avait marquée. Je l'ai toujours dans mon téléphone et je dois dire que je suis assez d'accord avec ça. Et c'est une phrase à laquelle je repense très souvent quand je songe à déléguer des choses dans le cadre de mon activité professionnelle. C'est aussi d'ailleurs cette idée du « mieux vaut fait que parfait » qui est devenue un de mes nouveaux mantras ces dernières années. Et je me rends compte que ce mantra « mieux vaut fait que parfait » m'est beaucoup plus utile dans ma vie, dans mon business, que celui que j'avais avant qui était « on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même ». Je conclus ici la première partie de ce double épisode sur les 10 leçons que j'ai tirées de mes 10 ans d'entrepreneuriat et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cet épisode dans lequel je partagerai avec vous 5 autres leçons complémentaires que j'ai tirées de cette décennie à la tête de mon entreprise. Mais ne partez pas tout de suite puisque, comme d'habitude, je vais clôturer cet épisode avec mes coups de cœur et découvertes de la semaine. Mon premier coup de cœur, c'est un coup de cœur lecture. C'est un livre de l'auteure britannique Lisa Jewell que je viens de terminer après l'avoir dévoré en 48 heures, je crois. J'adore ce genre de livre impossible à poser et qui devient presque obsédant le temps de la lecture. Donc le livre dont je parle s'appelle None of This is True et pour le moment, il n'est pas encore traduit en version française parce qu'il est sorti très récemment. Donc si vous lisez en anglais, je vous le recommande chaudement. Mais si ce n'est pas le cas, ne vous en faites pas parce que Lisa Jewell, elle a déjà écrit beaucoup de romans qui ont tous été traduits en français. Et franchement, vous pouvez foncer les yeux fermés parce que tous ces livres sont géniaux. Je crois que je les ai presque tous lus. Et si vous aimez les thrillers psychologiques, les polars, le suspense, vous allez adorer ce qu'elle écrit. Un des romans de Lisa Jewell que j'ai le plus aimé ces dernières années et qui m'a complètement happé et retourné le cerveau s'appelle en français « Rentre avant la nuit ». En anglais, il s'appelle « The Night She Disappeared ». Et si vous avez envie de commencer à lire un de ses livres, c'est vraiment une bonne référence pour débuter. Je vous mettrai dans les notes de cet épisode le nom de l'auteur à l'écrit et les deux romans que je viens de citer. Mon deuxième coup de cœur, c'est finalement plutôt une habitude que j'ai intégrée à ma routine hebdomadaire depuis le début de l'année et qui m'apporte beaucoup de plaisir, et c'est celle de regarder des films plutôt que des séries. C'était une de mes intentions de 2024 de regarder un petit peu moins de séries au profit de films parce que j'avais remarqué que ces dernières années, à part au cinéma, je regardais finalement très peu de films à la maison et que j'avais plutôt systématiquement le réflexe de regarder uniquement des séries. Alors, je n'ai rien contre les séries, j'adore les séries, mais c'est vrai que j'avais envie de regarder un petit peu plus de films aussi. J'ai une longue liste de films dans mon téléphone avec tous les films que j'ai envie de voir, certains récents, d'autres très anciens. Il y a certains classiques que j'ai jamais vus. Par exemple, j'ai Erin Brockovich sur ma liste depuis des années. J'ai jamais vu ce film, mais j'ai hyper envie de le voir. Bref, j'aime bien l'idée du film, l'idée du one-shot finalement. On s'embarque pas dans des dizaines d'épisodes de séries sur plusieurs saisons, sur plusieurs années, mais on va passer 2 heures avec des personnages, dans un univers, et ensuite, quand le film va s'arrêter, il ne va pas y avoir cette suite perpétuelle d'épisodes, de saisons comme les séries, avec parfois aussi une baisse de qualité ou une intrigue qui finit un petit peu par tourner en rond dans certaines séries. Donc, surtout, je ne veux pas dénigrer les séries et mettre les films au-dessus, mais en tout cas, moi, dans ma propre expérience perso, j'avais envie de recréer un peu un équilibre entre ma consommation de films et de séries et de ne pas uniquement enchaîner, binger des séries, des épisodes sans cesse, sans prendre vraiment le temps de m'immerger pleinement dans l'univers d'un film. Donc récemment, j'ai regardé plusieurs films qui étaient sur ma liste depuis longtemps et que j'ai énormément aimé. Donc Bullet Train, dont je vous avais parlé dans mon précédent épisode de podcast. Je sais d'ailleurs que certains et certaines d'entre vous l'ont regardé et m'avaient envoyé des petits messages. Donc trop contente quand mes recommandations peuvent vous être utiles. J'ai aussi regardé Ready Player One, qui était le seul film de Spielberg que je n'avais jamais vu et que j'ai vraiment adoré. Hyper différent de ce qu'on voit d'habitude. Je ne m'attendais pas à ce film, mais c'était vraiment une belle surprise. Ou encore Lady Bird de Greta Gerwig, que je n'avais jamais vu et que j'ai beaucoup aimé aussi. Et du coup, je serais curieuse de savoir aussi si vous, est-ce que vous regardez beaucoup de séries et peu de films, ou plus de films, pas beaucoup de séries, ou les deux. Si vous avez envie de partager ça avec moi, comme toujours, vous pouvez m'écrire sur les réseaux sociaux à Daphné Moreau ou m'envoyer un petit mail à podcast@daphnemoreau.fr. Merci de nous avoir rejoints et d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à ce podcast sur votre plateforme d'écoute préférée afin de ne manquer aucun épisode. Pour soutenir ce podcast, partagez cet épisode sur les réseaux sociaux en taguant mon compte Daphné Moreau, faites-le découvrir à un ou une amie qui pourrait l'apprécier, ou bien laissez-moi simplement un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. N'hésitez pas à réagir à cet épisode et à m'envoyer vos questions, suggestions ou astuces par mail à l'adresse podcast@daphnemoreau.fr afin d'enrichir les prochains épisodes. Je compte sur vous. Je vous souhaite une très bonne semaine et prenez bien soin de vous.